Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Fergan Azeyari, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes le délégué général de l'Académie libre des sciences humaines. Vous avez publié Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée aux éditions Les Presses de la Cité. Frédéric Farah, bonjour.
Bonjour.
Économiste et enseignant-chercheur affilié au laboratoire Phare de l'Université Paris-Sorbonne. Phare pour philosophie, histoire et analyse des représentations économiques. J'aime vraiment beaucoup l'appellation. Éric Ayer, bonjour.
Bonjour.
Directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des finances publiques. Vous avez coécrit Une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion Champ Actuel. Voilà, 100 milliards, nous dit effectivement Jean-René Cazeneuve, le rapporteur général du budget, 600 amendements et ça n'est que le début de l'histoire. Le Rassemblement National veut la TVA à 5,5 sur tous les produits d'énergie. TVA zéro sur un panier de 100 produits de première nécessité. Geler les cotisations des patrons qui augmentent l'intégralité de leurs salariés sous 3 SMIC de 10%. C'était la grande mesure pouvoir d'achat de Marine Le Pen pendant la campagne. Les Républicains veulent bloquer le prix des carburants à 1,50€ le litre en baissant les taxes. On est juste à peu près aux 2€, un petit peu en dessous aujourd'hui. Et aller plus loin sur la défiscalisation des heures supplémentaires, visiblement, Bruno Le Maire est prêt à le faire. La France Insoumise veut bloquer les prix des carburants, mais par décret, non pas à 1,50€, mais à 1,40€. Bloquer les prix des produits de première nécessité. Mettre le SMIC à 1500€ net. Et une demande soutenue également par le PS. Taxer les profiteurs de crise. Je mets entre guillemets les profiteurs de crise, vous l'avez bien compris. Quand vous entendez ça, Eric Ayer, je suis un peu désemparé.
On a l'impression qu'on refait un tout petit peu le match des présidentielles.
On rentre dans la législation.
Bon, vous voyez, c'est le jeu démocratique. Il y a des groupes qui donnent des propositions. Ensuite, ça va. Ils n'ont pas la majorité, donc il y a très peu de chances pour que finalement ces décisions. Alors, vous voyez, si certains arrivent à faire passer quelques mesures, comme tiens la défiscalisation des heures supplémentaires, Donc peut-être que c'est un jeu. Vous demandez gros pour avoir une petite mesure, c'est possible. Il est certain que... vous avez fait l'addition, et l'addition, ça fait 100 milliards. Vous voyez,
C'est à la louche, à mon avis, Jean-René Cazeneuve qui sort ce chiffre pour marquer l'opinion.
Bien entendu que... Il faut juste peut-être rappeler où est la crise. La crise, c'est en gros, aujourd'hui, cette inflation, c'est une inflation importée, donc c'est une ponction de revenus de l'étranger. Donc la France va perdre, les pays européens vont perdre, parce qu'ils sont des importateurs de pétrole, de gaz et d'alimentaire. Et donc, on l'évalue, nous, à peu près à 2 points de PIB. Donc il y a une perte de 2 points de PIB.
50 milliards.
Voilà, et il faut se dire, mais qui va payer cela ? D'accord. Et donc, c'est trop fort pour qu'un agent le paye complètement. C'est-à-dire que les ménages ne peuvent pas supporter une ponction de 50 milliards. Les entreprises ne peuvent pas compenser tout cela par des hausses de salaire, sinon ça fait une spirale inflationniste et les banques centrales n'auront pas d'autre choix que d'augmenter très vite les taux d'intérêt et provoquer une récession. Donc on veut éviter ces deux-là. Et l'État, on a discuté X fois de est-ce qu'on est code d'alerte ou pas code d'alerte, mais en tout cas, il est certain qu'ils ne peuvent pas non plus supporter l'intégralité du choc. Il faut trouver des mesures qui permettent, enfin en tout cas limitent le coût pour des ménages fragiles et pour des entreprises fragiles, et il va falloir que les autres agents acceptent ce coût, et il ne faut pas parler d'ailleurs de coût, il faut que j'arrête de parler de coût, mais d'efforts que l'on fait. Il faut rappeler, on est passé d'une crise sanitaire à une économie de guerre. Cette économie de guerre nécessite des efforts de la part de
certains
ménages.
Personne n'ose ce terme politiquement. Le terme effort, personne.
Il va falloir pourtant y arriver, parce que aujourd'hui, on pense que ça peut coûter zéro. Mais non, ça peut pas coûter zéro. Il faut bien que quelqu'un paye. Voilà. Et donc, on veut pas que ce soit les finances publiques, on veut pas que ce soit les ménages, on veut pas que ce soit les entreprises. C'est pas possible. Ça sera un peu des trois, et il va falloir bien désigner, et c'est ça qui est compliqué. C'est plus facile d'en parler face à un micro et dire, mais bien sûr qu'il va falloir les ménages fragiles, les compenser. C'est très compliqué à faire, parce que c'est multifactoriel, et que vous allez, du coup, provoquer des effets de seuil, et certains ménages vont dire, mais pourquoi je suis pas aidé alors que mon voisin l'est. Et donc
c'est
ça
ce
va.
Disent les classes moyennes que j'ai citées dans mes tweets d'hier matin.
Eh ben oui, c'est une catastrophe.
Pourquoi je bosse, quoi?
Bien sûr que pour un économiste, c'est facile de dire que c'est, il faut arrêter le quoi qu'il en coûte généralisé et faire du sur-mesure. Sauf que d'un point de vue politique, ça veut dire qu'il y aura des perdants ou des personnes qui, et il va falloir que ces perdants l'acceptent. Et ça, c'est compliqué. Et donc, du coup, on préfère faire des mesures qui sont pas optimales d'un point de vue économique, mais qui passent mieux d'un point de vue de la société. Mais ça veut dire que c'est les finances publiques qui le composent intégralement. C'est ça qui devient compliqué. Donc, je comprends l'opposition qui essaie de dire, mais allons-y, vous voyez, si j'étais au pouvoir, ça se passerait comme ci ou comme cela. Mais la réalité, effectivement, il faudrait qu'il y ait un message un peu plus de vérité, dire, voilà, il va falloir qu'il y ait quand même des perdants. Et même, refaire l'histoire, dire voilà, pendant la crise sanitaire, on a maintenu le pouvoir d'achat des ménages, on a maintenu des entreprises aussi leurs revenus globalement. Et ben là, on va changer un peu d'histoire. Les ménages qui ont surépargné, vous voyez, il y a 170 milliards de surépargne, nous dit la Banque de France, concentrés plutôt sur les ménages aisés, ben, il est peut-être un peu normal qu'on demande à ces ménages eh ben, de puiser dans cette surépargne pour maintenir leur consommation, ou en tout cas qu'on va arrêter de les aider, et que des entreprises qui sont dans les secteurs qui ont été déjà énormément aidées pendant la Covid et qui aujourd'hui bénéficient de la situation, bah, leur dire, bah, là, il va falloir que tu fasses des efforts pour augmenter tes salaires, pour compenser. Enfin, il va falloir qu'il y ait un moment, puisqu'on est en économie de guerre, eh ben, une économie un peu plus solidaire, et dire, il y a un coût, il y a un effort à faire.
J'entends, Eric, hier, sur mon discours de vérité, quand je vois ces listes d'amendements, c'est pas un discours de vérité. Non, on peut pas dire on va bloquer à 1,40 le carburant. Il y a un moment. Donc ce serait pas mal que les politiques soient dans un discours de vérité, comme effectivement vous présentez la situation avec beaucoup, beaucoup d'objectivité. Réaction à ce qui a été dit, Frédéric Farah et puis Ferrand Azihari.
Je suis d'accord parce qu'en fait,
un peu plus près le micro, Frédéric.
La véritable question, Eric Ayer le dit très bien, en fait, et on le voit à travers la question de l'inflation, on le voit à travers la question des partages, en fait, des décisions budgétaires à prendre. La vraie question, on se retrouve dans le bon vieux conflit de répartition. C'est-à-dire que, en fait, il y a un conflit de répartition qui est le conflit central de l'activité économique. Et donc, qui dit répartition? Donc, effectivement, ben, la répartition entre le capital et le travail, à travers la répartition, effectivement, des efforts, et que, de toutes les façons, on ne va pas être dans quelque chose qui va être positif pour tout le monde. Certains vont payer, d'autres vont payer peut-être un peu plus. Et donc, c'est derrière la question de la répartition, se pose la question du rapport de force. C'est-à-dire la capacité de ceux qui peuvent effectivement faire payer à d'autres plus en tant que tels. Alors, prenons le cas des salariés, par exemple. Le problème, c'est que avant cette crise, de toutes les façons, déjà dans la zone euro, peut-être... C'est un peu différent en France, mais dans la zone euro, la progression des salaires n'était pas si importante que ça. Je rappelle une déclaration de Mario Draghi en avril 2017 qui disait aux différents gouvernements européens qu'il avait trouvé que la progression des salaires n'était pas suffisante, il fallait qu'il fasse un effort au niveau des différentes nations européennes pour pousser une augmentation des salaires. Donc, il y a, pour toute une catégorie de salariés, déjà dans le passé, un certain hiver salarial. À l'époque, l'inflation ne progressait pas tant que ça, donc ça pouvait paraître plus supportable. Maintenant, voilà que ces mêmes salariés se retrouvent, alors qu'ils avaient connu des progressions salariales qui n'étaient pas suffisantes, face à le retour d'une inflation plus soutenue. Donc, est-ce que eux, ils vont devoir payer davantage ou pas? Donc, la question, et c'est ça qui est effectivement passionnant et très difficile, c'est une question politique parce que c'est une question de redistribution, c'est une question de revenus et d'efforts. Qui va supporter plus ou donc, on se retrouve dans la logique au cœur de l'économie, c'est-à-dire des rapports de force.
D'ailleurs, ça m'intéressera de savoir quel est votre avis sur le pic d'inflation qui a été atteint, nous a dit Bruno Le Maire. On commence à avoir des baisses de prix alimentaires, on voit que le carburant a aussi reculé. Regardez hier, par rapport à cette surenchère à tous les étages, et ce que je considère comme étant très loin d'un discours de vérité.
Oui,
ce
alors,
qui d'ailleurs fait suite à la campagne présidentielle qui n'a pas non plus été un discours de vérité sur le plan économique, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, c'est, vous avez raison.
Mais le problème, c'est que ça passe dans l'opinion, parce que maintenant...
Oui, effectivement, on a été acculturé effectivement au quoi qu'il en coûte, et je suis d'accord avec ce que vient de dire Eric hier à une réserve près, c'est-à-dire que je ne comprends pas très bien l'intérêt de dire à ceux qui épargnent beaucoup, on va consommer davantage dans une période de pénurie. Il me semble au contraire que dans ces périodes de pénurie, l'épargne est une vertu et la consommation n'ajoute pas grand-chose d'intéressant. Vous avez raison sur le fait que de toute façon cette crise sera coûteuse. C'est-à-dire qu'on est dans une période de pénurie liée à la fois aux problèmes logistiques relatifs à la crise sanitaire et en même temps à des problèmes géopolitiques. Maintenant, on se pose la question de la répartition, comme l'a dit Frédéric. Moi, je note quand même avec intérêt que Frédéric Farah a beaucoup parlé du conflit de répartition entre le travail et le capital, mais on ne parle pas beaucoup du conflit de répartition entre le privé et le public. Or, s'il y a... je pense aujourd'hui au fait que vous parlez de surenchère en matière de finances publiques et de dépenses publiques. On est quand même dans un pays, encore une fois, où l'État est la seule institution qui n'a pas fait beaucoup d'efforts, justement, dans...
Sur les efforts.
Voilà, on parlait d'efforts, d'accord. On parlait de coûts.
Oui,
on parle de demander des efforts aux ménages et aux entreprises. Très bien, elles vont devoir en faire, ça c'est une certitude, mais je remarque que cette injonction à l'effort s'applique généralement très peu aux administrations publiques qui, elles, ont un train de vie qui ne bouge pas et qui ne sont jamais, justement, invitées à se remettre en question dans un moment où tout le monde devrait faire preuve d'un peu plus de sobriété.
Il n'y a d'ailleurs aucune mesure d'économie par rapport à ces six ans.
Aucune.
C'est pas totalement faux ce que dit Farhad Nazeri sur l'absence d'efforts de la sphère publique. On va pas me dire qu'on est à l'os partout et qu'il n'y a pas des choses qui seraient possibles.
D'autant que, encore
dans
une
cette
fois,
période d'économie de guerre. Alors allez-y,
d'interpréter. Non, bien sûr. D'autant, encore une fois, qu'on fait l'erreur en France toujours de considérer que la dépense publique est l'alpha et l'oméga de la prospérité. Si c'était le cas, ça se saurait. La France serait en passe de devenir la nation la plus riche du monde quand la Suisse serait le pays le plus misérable. C'est pas exactement comme ça que les choses se passent.
L'effort public aussi. Eric, c'est pas faux. Moi, je suis assez sensible à l'argument. Non,
mais si vous regardez les salariés, d'accord, oui, du public par rapport aux salariés du privé, on a demandé, me semble-t-il, un effort aux salariés du public depuis des années. C'est-à-dire qu'on a
gelé le point d'indice.
Eh ben oui,
mais il y a d'autres éléments de rémunération.
D'accord, mais il se trouve que tout de même, un professeur qui arrive, je prends l'exemple d'un professeur.
Mais c'est l'exemple scandaleux, le professeur.
Mais non, mais pas le professeur, mais n'importe qui. Alors,
c'est insupportable, le prof quand qui a gelé... plus 5 et qui a 2000 par
d'accord.
mois.
D'accord, bon, ok. Donc, du coup,
oui, personne ne pense à lui quand on parle même... de...
Non, mais du coup, on demande bien des efforts aux salariés. Non, mais on prend le cas des professeurs, mais de n'importe quelle personne de la fonction publique, puisque le point est gelé. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat d'un nouveau entrant dans la fonction publique est de plus en
oui,
plus faible.
Oui, ça c'est vrai.
Bon, mais donc,
les nouveaux coup, entrants,
et on n'a
oui.
pas demandé des efforts cette année. On
les
a demandé
trouve
des
plus
efforts
les profs,
depuis.
D'ailleurs, Eric.
Oui, mais voilà. Des profs, mais même mais d'autres fonctionnaires. Encore une fois, quand vous gelez le point, c'est-à-dire que vous gelez le point d'entrée. C'est-à-dire que n'importe quel fonctionnaire qui entre aujourd'hui a un pouvoir d'achat nettement plus faible que le même fonctionnaire qui est rentré il y a un an, deux ans, dix ans dans le passé. Donc on a bien demandé des efforts tout de même aux salariés de la fonction publique. D'accord ? Et là, quand aujourd'hui on leur dit, on vous met une augmentation de 3,5, on a l'impression qu'on leur fait un cadeau. D'accord ? Alors que dans le privé, on va progresser, en moyenne, les salaires vont progresser de 3 ou 4%. Donc en fait, on ne demande pas, il y a le même effort. Donc il faut faire attention. D'un côté, on dit c'est normal que les salaires du privé augmentent et qu'il va falloir qu'ils augmentent même.
Mais le point de vue, c'est normal qu'il augmente.
Et bien voilà. Et bien oui, mais donc on montre comme si c'était, vous voyez, c'était présenté dans le budget comme et ben, finalement une dépense supplémentaire. Non, c'est quand on nous gèle, c'est des économies qu'on demande. Quand on ne gèle pas, il n'y a pas de dépense supplémentaire.
Pas forcément des salariés, on parle aussi de l'institution publique
oui,
en tant que telle.
Non, mais d'accord.
Non, mais d'ailleurs, vous faites aussi. Vous feignez d'ignorer que tous les salariés de la fonction publique se valent. On sait très bien que ce n'est pas le cas. Il y a aussi des problèmes de bureaucratie que l'on peut interroger, se poser la pertinence de certains postes par rapport à d'autres. Quand on dit quand on parle de demander des efforts à l'administration publique, personne ne parle des professeurs, personne ne parle des médecins, personne ne parle des. Enfin, c'est pas ces gens-là qui sont visés.
Oui, mais vous parlez de deux tiers des fonctionnaires. Dans ces cas-là, il faut couvrir. Non, mais vous voyez, c'est pour ça que c'est pas si évident que ça.
On va parler de la réforme des retraites, on va parler de plein de choses,
ben voilà,
les dépenses publiques, je suis d'accord avec vous,
mais je pense que
réduire la question de la dépense publique à une question de masse salariale, je suis d'accord, ce n'est pas pertinent.
Le problème, c'est que quand vous dites cela, il y a un petit problème, à mon avis, d'idées que vous diffusez qui est fausse, c'est que quand vous réduisez les retraites, d'accord, le poids des retraites, vous ne réduisez pas la fonction publique, c'est du privé à privé.
Je parle des dépenses publiques.
Mais non, mais d'accord, mais les dépenses publiques, vous mettez les retraites dedans, et c'est normal, parce que c'est ce qui fait la grosse différence. Mais si vous baissez le poids des retraites, c'est le retraité du privé qui va être impacté.
Oui,
ça n'a rien à voir avec la fonction publique.
Oui.
C'est-à-dire que globalement, c'est de la redistribution.
C'est pour ça que je parlais
entre...
de dépenses publiques et non pas des fonctionnaires.
Oui, mais
en tant
la dépense publique dont vous parlez, on a l'impression que c'est des fonctionnaires qui vont devoir faire des efforts.
Alors
que
c'est des fonctionnaires. C'est vous qui avez parlé des fonctionnaires, ce n'est pas moi.
Non, mais en tout cas, quand vous dites la dépense publique doit baisser par les retraites, il faut bien que l'auditeur se dise c'est des actifs, c'est des retraités du privé qui vont perdre.
En effet.
Et Frédéric Farah. Et après, moi, je vais vous faire mon affirmation scandaleuse, là.
Oui. Et puis, Et aussi, il faut quand même aussi garder à l'esprit, toujours sur les salaires qui sont bas, l'État est un producteur de précarité pas possible, parce que croire que tous les gens qui travaillent dans la fonction publique, c'est des fonctionnaires statutaires, c'est pas vrai.
Non, il y a un million de
contractuels. Effectivement, il y a des contractuels.
Enfin, c'est pas aberrant qu'il y ait des contractuels.
Non, mais il y a aussi... l'État fabrique, évidemment, lui aussi, il est grand fabricant d'emplois atypiques, c'est-à-dire il ne fabrique pas de l'emploi statutaire. Donc il y a une précarisation de ceux qui ont un rôle dans la fonction publique. Ça, c'est un. Et puis deux, les administrations, depuis les années 80-90, ont supporté des réformes en tout genre pour expliquer qu'on allait faire émerger des gisements de productivité. On a soumis les administrations, New Public Management, j'en passe, la RGPP. On n'a pas arrêté de soumettre les administrations.
Avec un résultat nul.
Mais oui, et ça ne marche pas.
Ça ne marche pas.
Et ça ne marche pas. L'idée, très bien, non, pourquoi ça ne marche pas.
Non, mais l'idée, enfin, pour moi, qu'il faut combattre, c'est le privé, c'est productif. Le public, c'est improductif. Donc, il y aurait effectivement dans le privé que des salariés mobilisés tous les jours, etc., qui veulent bosser.
Il y aurait des ronds de cuir. Un petit peu la théorie économique.
Il y aurait des ronds de cuir en face. Je pense que
tout marche pas bien dans le privé. Moi, non, pour faire régler la clim du studio, il faut que je fasse une petite note. Donc,
mais,
oui.
Voilà. Mais c'est-à-dire et que on serait aujourd'hui, je veux dire, par exemple, on nous dit, enfin, si on fait de la théorie économique, normalement. Les salaires sont rémunérés en fonction de la productivité marginale. Donc, il faudrait expliquer, par exemple, pourquoi certains PDG auraient tellement de rémunération par rapport à d'autres salariés. Ça voudrait dire qu'il faudrait être capable de prouver qu'ils ont une productivité marginale tellement supérieure aux autres que cela justifie. Alors moi, je veux bien qu'on me le montre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'administration, elle a supporté des réformes en tout genre avec un résultat plus que discutable. Ça c'est un. Et puis ensuite, aujourd'hui, il faut distinguer, on a du mal à distinguer qu'est-ce que c'est qu'une dépense d'investissement ou une dépense
courante. Ah, c'est un sacré sujet.
Et ça, c'est aussi un autre problème. Alors, c'est quoi le salaire d'un professeur? Est-ce que c'est une dépense d'investissement ou est-ce que c'est une dépense courante? Alors ça, c'est vraiment la question qu'il faut poser.
Non, mais c'est pas ça le sujet. C'est que quand vous regardez aujourd'hui comment est dépensé l'argent de l'éducation nationale, il y en a 51% pour payer les profs, 49% pour payer la machine.
Voilà.
En Allemagne, 80% payent les profs et 20% la machine.
On a un problème de machine. Qualité-prix, je veux dire, c'est évident. Tout à l'heure, Frédéric disait le privé est productif, le public ne l'est pas. La théorie économique est plus subtile que ça, et vous le savez très bien, Frédéric. Ce qu'on reproche au secteur public, enfin, ce qu'on reproche, non, c'est pas un reproche, puisque c'est structurel. Le privé a l'avantage d'être soumis au test des profits et des pertes. Et donc, un entrepreneur, quand il doit évaluer sa productivité sur le marché, c'est très simple. S'il n'a pas de clients, il coule, et donc c'est le signe effectivement que sa valeur ajoutée est pas très élevée.
Ah, le privé peut aller au tribunal de commerce, pas l'État.
Exactement. L'État, non. L'administration publique n'est pas soumise au risque de faillite, et donc ça pose une question effectivement d'incitation à la performance qui n'est pas la même. Quand par exemple la législation sur les marchés publics force les gestionnaires à se procurer des biens et des services sur le marché selon le meilleur rapport qualité-prix, vous voyez bien que cette législation acte le fait que ce comportement ne va pas de soi dans le secteur public, alors même que de telles restrictions n'existent pas pour le secteur privé. C'est bien parce qu'il y a des incitations qui diffèrent dans un secteur et dans l'autre, et c'est la raison pour laquelle en effet le capitalisme tend à être supérieur à l'économie dirigée. Mais ça, c'est vieux depuis ça, c'est un siècle de théorie économique quand même.
Le secteur privé connaît des sanctions que le secteur public ne connaît pas.
Voilà.
Enfin, ça, c'est bon.
Oui, mais
il faut marquer une pause dans une minute. Vous n'êtes pas d'accord, Eric?
Non, juste
Frédéric.
Je suis tout à fait d'accord lorsque Michel Aglietta dit que nous vivons dans une économie rentière et donc où on est loin du fameux capitalisme qu'on décrit. Et il le dit très bien. Et je suis d'accord avec lui. Rente technologique, rente des marchés financiers, rente, comment dire, de la métropolisation. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, l'idée que nous vivrions dans un monde où la concurrence gouverne, non et non. On vit dans des économies de rente et qui ne sont pas tellement liées au public, mais qui sont liées à la fonction, au fonctionnement même du capitalisme financiarisé d'aujourd'hui.
On marque une pause. Dans un instant, vous réagirez, Eric Heyer. J'aimerais bien qu'on pose la question quand même du pic d'inflation. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'il m'est arrivé de discuter avec des gens de la fonction publique, tout type de fonction publique, et quand ils vous racontent leur vie, leurs anecdotes, on se dit quand même qu'il y a des progrès possibles. Quand le patron de la PHP dit qu'il a 1500 personnes pour gérer le ticket
quand
modérateur.
On voit que la révolution numérique n'a entraîné aucune rationalisation de la main-d'œuvre dans le secteur public, ça quand même en dit.
Aucune, je sais pas. Bon, on a fait d'énormes progrès en e-administration à Bercy, par exemple.
Et oui. Donc,
si, quand même.
Oui, très bien.
Bon, on marque une pause. Le pic d'inflation, et puis alors voilà, moi je dis, si on veut réduire la dépense publique, voilà comment je le présente ce matin. Eh bien, on réforme les retraites, pas forcément avec la borne d'âge. On met un peu de capitalisation au bout d'un certain temps, eh bien, les choses finiront par par s'équilibrer. Et puis, on divise par deux la durée d'indemnisation au chômage de 24 à 12 mois. J'ai regardé, c'est à peu près ce qu'on voit dans toutes les réformes de l'assurance chômage qui ont été menées par d'autres pays, y compris en Allemagne, après les lois Hartz. Alors évidemment, ce que je viens de dire est absolument scandaleux, mais on peut en dire un mot.